c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Chacun d'entre vous, je souhaite le bonjour et une très très bonne journée. J'aime bien le mois de juin, c'est celui des cerises, des longues journées sans fin, aux douces soirées exquises, écrivait Robert Casanova, un poète corse très prolifique qui écrit encore, figurez-vous, pour montrer à sa famille qu'il n'est pas oisif, même en retraite. Alors avec lui, on apprécie donc ce mois de juin, ce premier lundi du mois qu'on essaie de passer d'abord ensemble pour ces deux prochaines heures, et puis de façon agréable et surtout positive.
C'était le mois de juin, la terre renaissait, et les dieux libertins invitaient à danser. Il y avait dans l'air un air de paradis, les robes étaient légères, et les filles aussi.
Jouaient les mandolines, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine. Jouaient les mandolines, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine.
L'amour faisait des siennes dans les corps et les cœurs. Derrière les persiennes s'éveillaient les ardeurs, et tout n'était que chant, que soupir, que peur. Dans les bois et les champs fleurissaient des je t'aime.
Jouer les mandolines, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine. Jouer les mandolines, les flûtes, les c'était en juin le mois où le ciel s'illumine.
Je regardais la terre avec mélancolie, dans la douce lumière ton regard m'a souri. La brise était légère et les filles jolies. Il y a eu dans l'air un air de paradis. Flûtelé au bois, c'était en juin, le mois où le ciel s'illumine. Jouer les mandolines, les flûtelé au bois, c'était en juin, le mois où le ciel s'illumine.
Georges Moustaki sur Radio Plus. Alors avec Jean-Louis Ouattet, président de l'Extrême Nature, dans notre rubrique Saltant sur la planète, eh bien on parlera eau et sécheresse. Et oui, on aura peut-être la chance d'avoir un petit peu de pluie aujourd'hui, qui sait. La terre renaissait, chantait Georges Moustaki. Eh bien justement, nous retrouvons Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, pour sortir de cette terre les meilleurs légumes bio. Bien sûr. Le mois de juin avec son ciel qui s'illumine. Bertrand nous donnera l'envie d'aller au jardin, mais aussi de visiter des jardins. Et j'accueillerai Monique Farda en fin d'émission qui nous invitera à visiter le sien, le jardin de l'Aubio à La Couture. Son jardin et ses superbes roses.
Chanson bleue des matins sur la mer. Chanson bleue des grands feux de l'hiver. Chante-la, elle est pour toi, le bleu te va bien. Le bleu de tes yeux les jours heureux, le bleu des nuits de juin, le bleu des nuits de juin. Chanson bleue qui me tombe du ciel, quand il pleut, c'est comme un arc-en-ciel. La couleur dépend de l'heure, elle dépend surtout de toi. Selon que tu viens, selon que tu t'en vas, l'amour est bleu ou pas. Là, elle est pour toi, le bleu te va bien. C'est le bleu de tes yeux des jours heureux, le bleu des nuits de juin. Chanson bleue qui me tombe du ciel. C'est comme un arc-en-ciel. La couleur dépend de l'heure, elle dépend surtout de toi. Selon que tu viens, selon que tu t'en vas, l'amour est bleu ou pas. Chanson bleue, ah la la la, chanson. La 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 chanson.
Sacha Distel sur Radio Plus, on n'oublie pas Sacha Distel. Alors, l'enquête dans l'air du temps, savez-vous que l'Allemagne va modifier les cases de l'état civil relatives au sexe? Ainsi, nos voisins d'Outre-Rhin ne seront plus obligés de se déclarer de genre masculin ou féminin. Ils pourront avoir accès à une troisième case intitulée « divers ». L'Allemagne, qui permettait déjà depuis 2013 de se soustraire au champ sexe de l'état civil en optant pour une case vide, eh bien, l'Allemagne est le premier pays d'Europe à ouvrir un troisième statut après le Népal, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, simplement une petite question, savoir comment cela va se passer aux frontières.
Je suis proche par alliance d'une certaine enfant à laquelle je pense presque tout le temps. Car elle est fille d'Ève, je suis fils d'Adam. La distance est si brève, nous sommes parents. Tu es moitié toi, tu es moi, tu es moi. L'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi. Je suis ton vice et versa. Et qu'aurais-je pu faire si pour mon malheur j'avais été son frère, qu'elle fut ma sœur. Nous n'aurions pu nous dire, tire, lire, là, ni même nous reproduire en duplicata. Tu es moitié toi, tu es moitié moi, l'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi, je suis ton vice et versa. Quand je suis coupé d'elle, mon corps estropié ne bat plus que d'une aile et saute à cloche-pied. Je n'ai plus qu'une lèvre, je me laisserai languir de faim, de soif, de fièvre et de souvenir. Quand elle quitte sa chemise ou mon pyjama, tout son corps se déguise en panorama. Quand la nuit elle s'agite, qu'elle a peur du loup, pour s'enfuir elle prend vite ses jambes à mon cou. Tu es moitié toi, tu es moi, l'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi, je suis ton vice et versa. Quand nous mangeons des pommes, elle va se confesser et raconte au bonhomme d'abord mes péchés. Puis elle fait pénitence pour elle et pour moi, en nous sevrant de danse le reste du mois. Si demain je la couche sur mon testament, je lui lègue ma bouche généreusement. Mais sitôt solitaire, elle me dira, je viens prendre sous terre ma place en tes bras. Tu es moitié toi, tu es moi, l'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi, je suis ton vice et pour ça.
Guy Béard sur Radio Plus, et tout de suite on retrouve Jean-Louis Ouatté pour notre rubrique Saletant sur la planète. Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Les préfectures des deux départements des Hauts-de-France ont décidé de placer le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance sécheresse jusqu'au 30 juin de cette année, hein, bien sûr. Et oui, quand il pleut, les gens se plaignent et pestent contre ce temps pourri, comme ils disent. Mais Bertrand Tridel, par exemple, de président de l'Association des paysages et jardins des hommes, insiste chaque semaine sur ce fait que notre région manque d'eau, mais la plupart restent sceptiques. Alors comment, dans notre région jugée souvent pluvieuse, comment pourrait-on manquer d'eau, disent les gens. Et pourtant, c'est le cas. Alors Jean-Louis Ouatté, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors l'eau, sa qualité, sa distribution, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien. Alors le Nord placé en alerte sécheresse, cela veut dire quoi Jean-Louis?
Oui, alors une petite chose à rectifier, il faut savoir que les niveaux de vigilance au niveau de l'eau sont gradués. Il y a vigilance sécheresse, hein, donc d'information et incitation des particuliers, des professionnels à faire des économies d'eau. Il y a ensuite le niveau supérieur, c'est alerte sécheresse, donc limitation des prélèvements, alerte renforcée sécheresse et crise sécheresse. Alors il faut savoir que le Nord est en alerte sécheresse et le Pas-de-Calais est au niveau en dessous, c'est en vigilance. Hein. Donc ils sont pas tous les deux au même niveau. Alors il faut savoir que le département du Nord accuse un fort déficit de pluviométrique depuis le début de l'année. Les nappes phréatiques sont en baisse, les débits des cours d'eau sont fortement ralentis. Et il n'y a aucune perspective d'amélioration durable attendue avant l'automne. Donc les rares pluies passées ou à venir, bon, généralement sous forme d'orage, ne vont malheureusement rien changer à la situation. Il faut savoir que le niveau des nappes phréatiques a atteint son niveau le plus bas en avril. La période de recharge est maintenant terminée. L'évapotranspiration fonctionne à plein, hein, le niveau des nappes ne peut que descendre. Donc Michel Lalande, qui est préfet de la région Hauts-de-France, qui est préfet du Nord, a décidé de placer le département du Nord en alerte sécheresse, sauf au niveau du delta de la Haut, qui lui est placé en situation de vigilance, donc comme le Pas-de-Calais. Donc les mesures de restriction sont applicables jusqu'au 30 juin 2019. Donc on a eu un mois de février particulièrement sec et ensoleillé, on a connu des températures très douces, et puis la pluviométrie du mois de mars est restée insuffisante donc pour rattraper le déficit accumulé.
Mais alors Jean-Louis, vous dites que les nappes phréatiques de toute façon ça ne peut pas arranger. Ça veut dire que même s'il commence à pleuvoir à partir d'aujourd'hui jusque fin juin, bah, ça n'arrangera pas les choses.
Bah, ça améliorera un peu, mais ce ne sera pas suffisant parce qu'on est dans une période où il n'y a pas de recharge de nappes, et donc c'est pas une période, une bonne période, disons, pour la recharge des nappes.
Mais alors, pourquoi le 30 juin et après, on fait quoi?
Bah après, on, disons que là, la préfecture a anticipé, c'est-à-dire que l'année dernière, ils ont pris des mesures, mais un petit peu tardives, donc la situation, on pourra peut-être passer au niveau supérieur avec alerte renforcée.
Jean-Louis, donc, Jean-Louis, si oui. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, parce qu'il y a eu une coupure, une micro-coupure ici.
Ah,
on ne vous a pas entendu.
Voilà. Oui. Donc je veux dire qu'on est, pour le département du Nord, en alerte sécheresse, donc avec des mesures jusqu'au 30 juin, et puis à partir du 30 juin, ben, on va revoir un petit peu la situation. Soit on reste en alerte sécheresse, ou on descend si jamais vraiment on a beaucoup de pluie, mais on peut aussi monter, disons, en alerte renforcée sécheresse. Donc on attend un petit peu de voir la situation au 30 juin.
Tout à fait d'accord. Donc ils feront le point.
Faire le point. Okay. Je pense que là, le préfet a anticipé par rapport à l'année précédente.
D'accord. Alors, des nappes phréatiques basses, quelles conséquences? Moins d'eau, bien sûr, mais aussi, je suppose, un impact sur la qualité.
Ben, un très bon niveau d'eau dans les nappes phréatiques, ça présente de gros risques pour l'environnement. D'abord, une concentration plus importante et plus rapide des polluants qui sont potentiellement présents dans l'eau. Deuxièmement, il y a le manque d'oxygène et puis l'augmentation de la température de l'eau, puisque tout ça c'est lié, ça met en péril tout l'écosystème aquatique. Et puis le manque d'eau peut impacter les usagers et toutes les activités économiques du département. Donc il faut savoir que l'eau, ça fait partie du patrimoine commun de la nation, c'est un bien précieux pour nous tous. Et on doit faire preuve de civisme pour éviter de porter atteinte à cette ressource, surtout en état de fragilité. Donc c'est pour ça que tous les usagers de l'eau, les particuliers, les industriels, les agriculteurs sont appelés à diminuer leurs prélèvements dans le milieu naturel.
Et justement, alors, vigilance sécheresse, enfin, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura des restrictions, bien sûr, mais voire des interdictions.
Bah, on en est pour l'instant à des mesures de restriction qui sont essentiellement des mesures de bon sens, qui visent à économiser fortement l'eau, bon, déjà en limitant l'arrosage par exemple des pelouses, en interdisant le remplissage des étangs ou le lavage des voitures en dehors des centres spécialisés qui eux recyclent l'eau. Ça c'est pour les particuliers. Pour les industriels, bah, l'objectif c'est de tendre vers une réduction de consommation d'eau de l'ordre de 10%. Et puis pour les agriculteurs, l'arrêté vise des économies d'eau en interdisant l'irrigation entre 11h et 17h, c'est-à-dire aux périodes les plus chaudes de la journée.
Mais alors justement, cette agriculture risque-t-elle d'en souffrir?
Bah, les agriculteurs nordistes s'inquiètent et puis s'agacent un peu de l'arrêté. Les besoins en eau pour l'agriculture représentent d'après eux seulement 4% des prélèvements. Donc pour eux, c'est un arrêté contraignant pour leur activité économique, qui, d'après ce qu'ils disent, hein, a peu d'effet sur l'économie d'eau. Bon, ça, c'est le discours, hein. Il existe pour eux une certaine disproportion à faire supporter aux agriculteurs une réduction de 25% du temps d'irrigation. Donc, mais il faut savoir quand même qu'en 2018, si on prend l'exemple des pommes de terre, par hectare de production de pommes de terre, on prend l'exemple d'un exploitant du Cambrésis, il a récolté 10 tonnes de pommes de terre en moins par rapport à une année classique. Donc le manque de pluie s'est traduit aussi par des pommes de terre plus petites, alors que 90% de sa production est destinée aux industriels qui ont, eux, un cahier des charges précis. Et si les agriculteurs ne peuvent pas honorer leurs contrats, aussi bien qualitativement que quantitativement, bah, les conséquences sont importantes sur leur chiffre d'affaires. Donc on a vraiment un défi pour l'agriculture. C'est une équation à plusieurs inconnues et qui va rapidement se poser parce que les prévisions évoquent une eau de plus en plus rare. Et si on prend l'industriel McCain, pour pas le citer, qui est quand même un gros consommateur de pommes de terre, il réclame dans son cahier des charges la moitié de pommes de terre issues de cultures irriguées. Donc, sachant que les producteurs nordistes en fournissent actuellement 30%, on se pose bien la question pour savoir comment atteindre les 50% alors que l'irrigation agricole risque d'être de plus en plus restreinte. Donc, c'est un gros problème pour l'agriculture.
Mais finalement, c'est un système complexe, encore une fois, dans sa, à voir dans sa globalité.
C'est vrai que, vu de l'extérieur, les choses peuvent paraître simples, je dirais même simplistes, mais quand on regarde un peu à l'intérieur, c'est pas aussi simple que ça.
Alors justement, vous preniez l'exemple de cet industriel, ben, parlons-en de l'industrie. J'ai eu cette réflexion, oui, nous devons faire attention, mais lorsqu'on voit tout ce que les industriels consomment, on est en droit de se poser des questions, ce qui est un petit peu vrai.
Là, il faut rétablir la vérité. Oui. Ça, c'est un discours qu'on entend, mais qui n'est pas justifié. Il faut savoir que la consommation d'eau des collectivités et de l'industrie, donc dans le bassin Artois-Picardie, n'est que de 30%. Alors que l'usage domestique, c'est-à-dire nous en particulier, ça représente 53%.
Faut arrêter de se laver, quoi.
Il faut faire attention, donc il s'agit de prendre des mesures pour essayer de limiter justement cette consommation, de limiter l'exagération. Donc savoir aussi que l'industrie fait de gros efforts en matière d'économie et en matière de rejet, que ça se traduit d'ailleurs au niveau des rejets par une amélioration significative de la qualité des cours d'eau. Donc on ne peut pas rejeter sur l'industrie ces problèmes.
Alors, c'est vrai qu'il y a des secteurs quand même qui risquent d'être lourdement impactés par ce manque d'eau, hein, par exemple les hôpitaux.
Bah oui, parce que ça, c'est vrai que c'est un sujet vaste, à la fois en quantité et en qualité. Hein. Les hôpitaux sont des équipements prioritaires. Donc l'eau, c'est un élément essentiel au fonctionnement des établissements de santé, mais elle peut constituer aussi une source d'infection grave en cas de contamination, particulièrement pour les patients les plus fragiles. C'est vrai qu'on a des risques sanitaires et l'eau est un enjeu majeur pour les établissements hospitaliers. De savoir qu'il y a aussi des problèmes de maintenance, de traitement des eaux. Donc tout ça, ça doit être pris au sérieux. Et c'est vrai qu'en quantité, il faut faire attention. Les hôpitaux sont quand même prioritaires.
Tout à fait. Alors, bien sûr, donc chaque citoyen doit faire preuve de civisme pour éviter de porter atteinte à la ressource en eau, patrimoine commun, comme vous l'avez dit, et surtout bien précieux pour tous les usagers. Et alors, Jean-Louis, il y a des interdictions, certes, mais chacun à notre manière pouvons aller plus loin pour anticiper le risque de crise. Et il y a des gestes simples à adopter, bien sûr. Je disais qu'il fallait plus se lever.
Les gestes sont quand même assez nombreux. Bon, oui. Par exemple, faire la chasse au robinet qui coule, hein.
Bien sûr.
Fermer le robinet pendant le nettoyage des mains ou le brossage des dents, le rasage, réparer le robinet, la chasse d'eau. Il faut savoir qu'un robinet qui goutte, c'est 100 litres d'eau perdue chaque jour et une chasse d'eau, c'est 1000 litres d'eau perdue chaque jour. Donc les fuites peuvent représenter 20% de la consommation d'un foyer. Donc, puis fermer le robinet, le compteur d'eau lorsqu'on part en vacances, par exemple, c'est ne pas oublier. Choisir de prendre une douche au lieu d'un bain. Hein. Une douche, c'est 50 litres d'eau, un bain, c'est 150 litres. Installer des pommes de douche avec aérateur. Hein. Donc, en fait, c'est un petit peu une pomme de douche avec aérateur. L'injection de bulle d'air, ça donne l'impression d'utiliser la même quantité d'eau et pourtant, il y a 30 à 40% d'économie. Utiliser, par exemple, pour les machines à laver, utiliser la touche éco. Donc, tout ça, c'est des gestes qui sont importants. Bah, récupérer l'eau pour arroser ses plantes. Collecter l'eau à la descente des gouttières pour l'arrosage des fleurs. Donc, on économise ainsi l'eau potable. Puis aussi, choisir ses heures d'arrosage et puis aérer la terre. Et puis laver sa voiture dans une station. Il faut savoir qu'une station de lavage nécessite seulement 60 litres d'eau au lieu des 200 litres avec un tuyau d'arrosage.
Et je crois que c'est recyclé, hein.
Et c'est recyclé, donc il y a maintenant c'est des stations qui sont quand même très bien équipées, et donc
tout à fait.
Préférer ces stations de lavage que le lavage à la maison.
Et puis alors quand il pleut, bien sûr, c'est son de geindre.
Ah, comme tout à fait, hein. Je pense que il y a aussi tout un discours, malheureusement, quand on regarde la météo. On a toujours l'impression que il pleut à Lille et puis il fait beau dans le sud. Connaissant bien le sud, je peux vous dire que c'est malheureusement actuellement le contraire.
Eh oui, bon, et puis comme le faisait remarquer Bertrand Trinel, eh bien l'eau qui coule si facilement de notre robinet, sans même que nous y prêtions vraiment attention, n'arrive pas toute seule et il faut savoir qu'elle vient du ciel. Donc on est content quand il pleut, on ne fait pas la tête. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, Jean-Louis, on récupère cette eau de pluie qui peut servir pour arroser le jardin, pour remplir les bassins éventuels, et puis etc. etc. Donc, voilà. Vive la pluie une fois pour toutes, et merci à vous, Jean-Louis, pour toutes ces explications. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, et on se dit à lundi.
À lundi.
Merci.
Bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Au revoir.
Comment vous dites de l'eau de source? Et pourquoi pas une baleine bleue? Un éléphant, un bébé ours? Sans plaisanter, restons sérieux. De l'eau de source, moi j'en ai vu. Une fois dans une vieille bouteille, je connais quelqu'un qui en a bu. C'est paraît-il une merveille. On en a eu, et on a eu plein de l'eau. On en a eu à une époque. Mais là, rupture de stock. Walou. Les enfants jouaient dans les étangs.
Richard Gottener sur Radio Plus, et justement on parlait de Bertrand Trinel, et bien on le retrouve tout de suite.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Le temps qu'il fait en juin, le 3, sera le temps du mois. Eh bien voilà, donc nous sommes fixés. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil dehors pour connaître la météo des jours qui vont suivre. La grenouille a parlé, n'est-ce pas? Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors je suppose Bertrand qu'il y a beaucoup de travaux à faire au jardin au mois de juin et on peut encore planter de nombreux végétaux, autant au potager qu'au jardin d'ornement pour avoir un jardin fourni et fleuri durant l'été. Actuellement on a l'impression qu'il faudrait être partout hein, car ça pousse. Hein.
Alors oui c'est vrai, il y a beaucoup de travail au mois de juin. Bon cette année c'est un peu moins vrai que d'habitude puisque le manque de pluie ça ralentit un peu la croissance des plantes. Donc il faut néanmoins penser à terminer tous nos semis, à terminer nos repiquages hein, de légumes, hein, si on veut avoir de belles et bonnes récoltes. Et bien sûr, le jardin d'agrément, c'est aussi le moment de repiquer des plantes annuelles. On a de nombreuses plantes annuelles qui vont fleurir l'été de notre jardin, donc c'est maintenant qu'il faut les planter. Donc n'oubliez pas aussi, quand vous plantez vos plantes, de faire tremper vos godets quelques minutes dans un seau d'eau. La motte doit être complètement imbibée. De même, au moment de la plantation, vous arrosez copieusement le trou de plantation. Les jeunes plantes ont passé de racines, n'ont pas développé assez de racines, donc l'arrosage doit être copieux. C'est même indispensable si on veut que les plantes démarrent bien.
Alors, et puis c'est le bon moment, je crois, pour semer les courgettes, car c'est quand même plus économique que de se procurer des plants déjà grands. Et en plus, la courgette se cultive sans problème, Bertrand. Mais il leur faut là aussi de l'eau.
Effectivement, alors les semis de courgettes, bah c'est très facile et très économique. Hein. Les courgettes ont besoin d'un emplacement bien ensoleillé, d'un sol riche humifère et bien sûr de beaucoup d'eau. Donc si ces conditions sont remplies, vous obtiendrez des belles courgettes, mais alors très rapidement et sans aucun problème.
Oui, c'est vrai. Et puis, attention aussi peut-être à l'oïdium.
Ouais, alors c'est
chaleur, vrai. Chaleur et eau, bon.
C'est vrai que l'oïdium va attaquer facilement les feuilles de courgettes. Hein. Celles-ci se couvrent alors d'un feutrage blanc hein, qui peut aller jusqu'à la mort des feuilles. Hein, les feuilles atteintes vont mourir et ça peut se propager rapidement sur toute la plante et détruire le plant. Alors si vos feuilles sont atteintes, ben, vous pulvérisez du lait dessus. Le lait, ça va détruire l'oïdium. Mais bien sûr, comme partout, comme toujours, hein, il vaut mieux encore éviter que guérir. Hein. Donc aussi pensez à ne pas arroser quand vous arrosez, à ne pas mouiller les feuilles, mais à arroser au pied de la plante. Alors vous pouvez même enterrer une bouteille d'eau, un peu comme on fait avec les tomates, hein, une bouteille d'eau minérale d'un litre 5, là, au pied de la courgette. La bouteille est enterrée environ sur 20 cm. Au préalable, bien sûr, vous avez fait un petit trou au fond de la bouteille. Mmh. Il suffira de remplir la bouteille régulièrement. Donc l'eau va se diffuser plutôt en profondeur, les racines de la courgette vont descendre, alors de plus en plus en profondeur, et le plant sera beaucoup, beaucoup plus résistant à la sécheresse.
D'accord, voilà la petite astuce. Et puis la courgette est un bon réservoir de bons nutriments et elle peut se cuisiner de mille façons, à toutes les sauces et sous toutes les formes. Et puis, astuce Bertrand encore, ces courgettes ont beaucoup d'amis, certaines fleurs par exemple.
Alors oui, tout à fait. Donc les courgettes vont produire des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc il leur faut donc attirer des pollinisateurs pour qu'elles soient productives. Hein. Il faut que les fleurs femelles soient pollinisées pour avoir de belles courgettes. Donc on peut donc apporter notre aide en plantant à leur proximité des plantes dont les fleurs vont attirer les insectes pollinisateurs. Par exemple, on va planter de la bourrache, on va planter des œillets d'Inde, on va encore planter du tabac d'ornement ou d'autres fleurs qui vont attirer les insectes. Hein. De ce fait, eh ben, les insectes vont polliniser les fleurs. Les plantes de la famille des aliacées, des oignons, des échalotes aussi feront une bonne association favorable à la courgette. La menthe et le thym également. Alors n'oubliez pas que la courgette a besoin de beaucoup de place et qu'elle va s'étendre sur au moins 1 mètre carré, au minimum.
Tout à fait, il faut de la place, oui, tout à fait. Alors Bertrand, justement, vous parlez d'insectes, on l'a crié la semaine dernière, au secours les insectes disparaissent. Mais dans les jardins où ont été implantées de nombreuses variétés de vivaces et arbustes, eh bien, on commence à voir quelques papillons assez variés. Alors, que faire pour les préserver, pour leur offrir le gîte, et puis peut-être pour les attirer?
Alors, c'est toujours le même refrain. Hein. C'est toujours la plus grande diversité de végétation qui va offrir les meilleurs refuges et qui vont offrir la réserve de nourriture aux papillons. Alors, la haie champêtre, justement, c'est très bien. Pour tout ça, La haie champêtre aux nombreuses variétés d'arbustes est toujours tout à fait indiquée. Les arbustes aux floraisons parfumées sont particulièrement attirants. Alors tout le monde connaît le buddleia. Alors on peut dire que c'est une plante invasive et tout ça, mais le buddleia davidii est surnommé l'arbre papillon. Donc il a sa place dans la haie champêtre. Il y a un autre buddleia aussi qui est très intéressant, c'est le buddleia alternifolia, qui fleurit tout le long des branches, de petites fleurs bleues au parfum de miel très prononcé, très agréable, très très bel arbuste, un peu moins connu que le buddleia davidii. Planté également de nombreuses plantes vivaces. Hein. Il faut savoir que les couleurs pastels sont très attirantes pour les papillons, donc les scabieuses sont très appréciées. Vous pouvez également, dans un coin ensoleillé du jardin, semer une prairie fleurie, une prairie, disons, de fleurs mellifères. Et puis, bien sûr, on ne peut plus utiliser de produits phyto dans le jardin. Et du coup, c'est une chose aussi qui est très bien, parce que les papillons risquent de venir un peu plus nombreux dans nos jardins grâce à ça.
Et voilà. Alors, vous dites justement, les papillons préfèrent les couleurs pastel, et j'ai remarqué que les abeilles aiment beaucoup les couleurs violacées, bleu violacé.
Oui, tout à fait. C'est vrai que, d'ailleurs, les asters, en automne, les asters attirent beaucoup, les asters bleus attirent beaucoup les abeilles. En ce moment, il y a la véronie qui fleurit bleu.
Et en ce moment, les céanotes.
Alors la céanote, c'est un nuage d'abeilles dessus en ce moment.
Tout à fait. Alors, et puis Bertrand, justement, on rappelle que ce sont les chenilles hein, qui se métamorphosent en papillons. Donc, on ne les détruit pas. Au contraire, on les aide.
Effectivement, c'est bien de le rappeler parce que on admire et
les papillons, mais on n'aime pas les chenilles.
Voilà, on admire et on veut les papillons dans le jardin. On s'extasie devant leur beauté, leur légèreté, la grâce de leur vol. Mais on fait la chasse aux chenilles et on s'étonne de ne plus voir de papillons. Alors, si vous aimez les papillons, accepter quelques chenilles dans le jardin, ça me semble une évidence, mais bon, peut-être pas pour tout le monde.
Non, pas pour tout le monde. Alors, durant ce mois de juin, Bertrand, beaucoup de beaux jardins seront ouverts au public, et d'ailleurs, dans quelques instants, Monique Farda nous proposera de visiter le sien, le jardin de l'Obio à la Couture, à savoir que ce samedi, le jardin de l'Ermite, jardin de votre association, sera lui aussi ouvert au public, et ce, dans le contexte de la 17e édition de Rendez-vous au jardin.
Alors oui, tout à fait. Alors nous étions déjà ouverts ce week-end à l'occasion des portes ouvertes de l'association Jardin Passion. Nous serons également samedi prochain à l'occasion de Rendez-vous Jardin qui est organisé par le ministère de la Culture. Alors le jardin ouvre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et le jardin de l'Ermite se situe rue de la Gaugrie à Avesquerque. Alors, les Rendez-vous Jardin, c'est aussi l'occasion pour beaucoup de personnes de visiter des jardins qui habituellement sont fermés au public. Donc c'est une très bonne occasion d'aller voir de très très beaux jardins. Je pense que celui de Madame Farda est très beau.
Oui, avec toutes ces roses et puis tous ces arbustes, et on en parle tout de suite. En tout cas, Bertrand Trinel, merci. On se dit à lundi prochain.
À lundi prochain, voilà.
Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine.
Très bonne semaine à vous aussi.
Une abeille un jour de printemps voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait je vous aime. Mais l'abeille là-haut, tout là-haut, n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait. Et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit, mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur. Tandis que chantaient les grillons aux petits papillons. par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leurs ailes. Ils butinent la rose et le thym dans l'air frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans la vie, quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours, on triomphe toujours, on triomphe toujours.
Allez, on ne se prive pas de ces cris d'oiseaux. Henri Salvador sur Radio Plus, et des abeilles et des papillons. Eh bien, il y en a dans le jardin de Monique Farda. Les roses, mais aussi les arbustes et autres fleurs les attirent et vous attireront peut-être vous aussi ce prochain week-end pour le plaisir des yeux, mais aussi pour une bonne cause. Et oui, dans la continuité des propos de Bertrand Trinel qui nous a remis en mémoire ces rendez-vous au jardin organisés à l'initiative du ministère de la Culture, eh bien j'accueille à présent Monique Farda qui vous invite à découvrir et à profiter de la richesse de son jardin à la couture. Monique Farda, bonjour.
Bonjour Martine, merci de m'accueillir.
Alors vous vous associez donc à cette manifestation proposant la belle découverte du jardin de l'eau bio à la couture, ce qui veut dire que les roses y sont bien écloses déjà, Monique, car pénétrer dans cet univers, c'est d'abord entrer dans le royaume des roses, et Dieu sait si elles sont nombreuses.
Oui, je participe cette année au rendez-vous au jardin. En fait, c'est la première fois que j'y participe. C'est-à-dire que j'ouvrais mon jardin, ça m'a arrangé de l'ouvrir les 8 et 9 juin, et je me suis aperçu que ça correspondait à la date d'ouverture des jardins. J'en ai profité. Je pense que ça permettra de toucher des gens qui ne sont pas touchés habituellement par l'ouverture de mon jardin.
Mmh. Et puis, alors donc, des roses.
Oui.
Combien vous en êtes à combien de sortes de roses là maintenant?
J'ai à peu près 400 rosiers dans le jardin, un petit peu moins parce qu'il y en a qui sont des doublons, des boutures que j'avais faites et que j'ai pas voulu éliminer. Et puis donc 170 galies que j'y tiens à portion absolument parce que ça c'est mon dada, je vais dire, sont vraiment des roses que j'apprécie par-dessus tout.
Alors, votre jardin est donc bien sûr un modèle de biodiversité, car ces rosiers côtoient des massifs de tout type et de nombreux arbres et arbustes. Hein. Il n'y a pas que des roses.
Hein. Oui, non, il n'y a pas que des roses. En fait, il y a à peu près 2000 espèces variétés de plantes dans le jardin. Enfin, il doit y en avoir plus, mais je ne les compte pas. Et sont répartis en différents massifs, si vous voulez. Il y a des massifs qui sont spécialement réservés aux roses, mais dans toute la promenade du jardin, en fait, il y a des massifs dans lesquels il y a des arbres, des arbustes. Il y aura des vivaces, mais ça, va me falloir des années, parce qu'il me faudrait des milliers de pieds de vivaces, mais un petit peu à la fois, j'essaye de remplir. Il y a un verger, il y a un jardin de graminées, il y a un sous-bois, enfin, donc, c'est une promenade, disons, tout au long des floraisons, enfin selon les saisons. Mmh. Et pour les roses, en fait, ce qui est super cette année, c'est que elles n'ont pas encore commencé. Enfin, je ne vais pas dire elles n'ont pas commencé à fleurir. Il y a des variétés qui sont déjà très bien fleuries, des massifs vraiment opulents. Et puis il y a les galiques justement qui commencent juste leur floraison. C'est-à-dire que c'est super. La semaine prochaine, elles seront vraiment au top et ce sera magnifique.
Mmh. Et en plus, elles sentent bon.
Et des parfums sublimes.
Tout à fait. Sublimes. Pas comme les roses dans le commerce.
On a le droit de mettre le nez sur chaque rose, c'est pas interdit parce qu'ils font profiter.
D'accord. En faisant attention quand même, hein, parce que...
Gardons-les le pied, mais bon.
Ne pas renifler les insectes.
Ah oui, non, mais s'il y a un insecte, et puis les insectes, c'est pas notre nez qui les intéresse.
En tout cas, c'est une grande richesse donc à découvrir, mais aussi un grand moment d'échange, hein, Monique, entre vous et les visiteurs. Moment d'échange sur des pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, mais aussi sur cette reine des fleurs qu'est la rose.
Oui, bien sûr, on partage toujours. Enfin, faire visiter son jardin, c'est vraiment partager, échanger. Et donc, sur les techniques de jardinage, de toute façon, sur le fait que, de toute façon, je n'emploie aucun produit chimique et je paille le sol, donc les gens veulent savoir comment je paille, avec quoi je paille. Pour limiter la pousse en fait des adventices. Et puis aussi on parle du jardin, on parle des rosiers forcément. Mm. et
Vous parlez aussi des rosiers.
On parle particulièrement des roses anciennes, parce que souvent les gens connaissent quelques roses anciennes et ils ne font pas la différence. Donc ils veulent savoir les différentes variétés de rosiers, etc. Enfin, aussi savoir comment on les taille, quand est-ce qu'on les taille, si on enlève les fleurs fanées. On parle du parfum aussi, parce que c'est pareil, ils ne sont pas beaucoup habitués aux roses très parfumées. Enfin bon, donc il y a vraiment des sujets pour échanger énormément.
Enrichissement et plaisir donc au programme, mais pas que, car Monique Farda, vous êtes aussi la présidente de l'association Jardin Arts et Soins, dont vous nous rappelez l'objectif. Ça a déjà été fait sur cette antenne, mais il est bon de quelquefois de rappeler les choses.
Oui, donc je suis présidente de l'association Jardin Arts et Soins Hauts-de-France, puisqu'on est une association régionale en fait, depuis 2 ans. Donc le but de l'association, c'est d'aider à créer des jardins de soins dans des établissements hospitaliers qui accueillent des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc ça peut être des Alzheimer, ça peut être des autistes, ça peut être en fait, c'est selon. Mais si vous voulez, vraiment des gens avec ce chose supplémentaire. C'est pas un EHPAD ordinaire, si vous voulez, qui n'a pas d'unité spécialisée, par exemple.
Alors, ce qui veut dire que se faire plaisir pour servir une bonne cause, car en visitant votre jardin, Monique, on soutient l'action de l'association.
Mais oui, bien sûr, puisque on soutient l'action de JAS, puisque la totalité du montant des entrées est reversée à l'association.
Tout à fait, de façon intégrale, hein, il faut le préciser.
De façon intégrale, oui.
Donc, 16 000 mètres carrés situés à la Couture. Alors, je suppose que ce sera bien indiqué, Monique, vous pouvez nous redonner sur le plan logistique comment...
Oui, en fait, ceux qui ont eu le flyer, c'est simple, on a mis les coordonnées GPS, parce qu'il y a certains GPS qui induisent en erreur et les gens se retrouvent au milieu de la campagne. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc, il faut absolument préciser, chercher la
D170. D170 sur le GPS. Voilà.
Oui, parce que souvent, je ne sais pas si mais rue de l'Aubio, en faisant attention que c'est bien la D170.
D'accord. Voilà. Et puis, bon, peut-être qu'il y aura... Bon, puis les gens connaissent à la Couture.
Ça dépend, vous ne savez pas forcément. Mais enfin, de toute façon, au rond-point le plus près du centre, le rond-point qui vient vers la maison, j'aurais mis une affiche avec une flèche. Et devant la maison, également, une affiche de chaque côté pour que les gens voient bien, voilà.
C'est donc durant tout ce week-end. Alors, vous nous donnez les horaires d'ouverture quand même?
Oui, donc c'est samedi 8 et dimanche 9 juin, de 9h à 19h. Donc, journée continue, il n'y a pas de problème.
Même entre midi et 2?
Même entre midi et 2.
Comme les grandes surfaces.
Il n'y a pas de problème. On mange un sandwich et on attend que voilà, les gens aient envie de venir. Que ça arrange entre midi et 2h, il n'y a aucun problème.
Tout à fait. Et puis, on rappelle que le prix d'entrée est tout à fait dérisoire et qu'il sert une bonne cause. Prix d'entrée tout à fait dérisoire.
Trois entrées, donc le prix d'entrée, donc 3 euros. Entièrement reversé à JAS.
D'accord. Et donc, on rappelle que les bénéfices de ce week-end
ce ne sont
seront...
pas les bénéfices, hein, Martine.
Non, ce sont le prix
ce
d'entrée.
Ce sont la totalité du montant des entrées.
Mais de toute façon, comme vous n'avez pas de frais, bon, oui, voilà, c'est vrai.
Oui, non, mais si, des frais, j'en ai, je peux en avoir.
Mais vous les prenez à votre charge.
Je fais éditer des flyers, c'est ma forme de bénévolat, si vous voulez.
Tout à fait.
J'offre un jus de fruits aux gens qui viennent visiter le jardin, je ne déduis pas de ce que je donne à JAS, vous comprenez? Donc c'est vraiment la totalité des entrées.
La totalité des prix d'entrée sera donc reversée à l'association Jardin et Soins,
exactement.
Comme je le disais tout à l'heure, dans leur intégrité. Eh bien, Monique Farda, merci. Je suppose que vous allez à présent retourner dans ce jardin de rêve. Vous serez une rose parmi les roses.
Oui, merci pour le compliment. J'y retourne de toute façon. Bon, j'en ai presque à moins d'une semaine maintenant de l'ouverture. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Oui, parce que crois que c'est quand même du travail, hein.
C'est beaucoup de travail. Les gens qui viennent sont impressionnés comment une personne seule, une femme en l'occurrence, peut abattre autant de travail dans un si grand jardin. Et puis aussi, de toute façon, j'en profite pour faire le tour du jardin et admirer les roses.
Oui, parce que si on n'est pas, on n'a pas un jardin seulement pour y travailler quand même.
Ah ben non, de toute façon.
Et alors, il faut préciser qu'il y a des bancs, je crois, dans votre jardin.
Il y a des bancs. Il y a toute une partie à l'entrée du jardin
voilà.
qui est qui est vraiment dédié, qui est un jardin de roses, on peut dire.
Oui.
Et donc il y a deux côtés, enfin en U, et une grande bande centrale, et à l'extrémité de chaque extrémité, il y a un banc. Ensuite, dans le sous-bois, il y a aussi un banc, et puis ouais, on essaye de mettre des chaises aussi réparties un peu
voilà, dans le jardin. Il est peut-être bon de le préciser, à savoir que justement les personnes un peu, on va dire un peu âgées, peuvent aussi s'y rendre et profiter de ce super beau jardin.
Ah oui, il n'y a pas de problème. J'ai un monsieur qui vient depuis la première année et tous les ans, ceux qui veulent peuvent mettre un petit mot sur un cahier. Tous les ans, il me met à l'année prochaine et c'est un très vieux monsieur qui est très handicapé, qui vient au bras de son ami et il aurait des difficultés à marcher tout seul et j'admire et je veux dire, je l'attends tous les ans avec impatience parce que c'est un bonheur de le voir.
Monique Fardin, merci.
Et c'est moi qui vous remercie.
Et à bientôt.
À bientôt, d'accord. Au revoir.
Au revoir.
Elle est à ma peau. Elle est ma fleur, si belle fleur, protège.
Radio Plus et merci à vous de nous avoir suivis justement sur notre radio. Alors j'ai dit à tous mes intervenants à la semaine prochaine, mais non, puisque la semaine prochaine, lundi prochain, c'est la Pentecôte. J'aurais dû leur dire à dans 15 jours, car nous nous retrouvons dans 15 jours. Voilà, des roses, eh bien je vous en offre tout plein pour cette semaine et j'en ai même enlevé les épines. Alors soyez heureux, si le cœur vous en dit, nous pouvons encore être ensemble durant cette prochaine heure avec du programme, avec au programme musique et chansons kaléidoscope. C'est pour vous faire passer un agréable moment.